Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. L'histoire d'aujourd'hui est la mise au point. Vous pouvez également écouter notre programme culturel dans la rubrique Magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président indonésien Joko Widodo est optimiste que l'objectif de 20 millions de touristes étrangers peut être atteint. Une vieille ville de Semarang est préparée d'être une destination touristique excellente. La nouvelle année se déroule sans des cas importants. L'aéroport de Noto Hadinegoro à Jember réouvre. La coopération entre le Vietnam et l'Indonésie pour accélérer le développement rural. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo est optimiste que l'objectif du gouvernement d'apporter 20 millions de touristes étrangers sera atteint dans les 3 jusqu'à 4 ans. C'est ce qu'a déclaré le président à Waisai, la régence de Raja Ampat en Papouasie-Occidentale, le vendredi. Il a ajouté que le pays voisin, dont la destination touristique n'est pas autant de l'Indonésie, pourrait apporter 24 millions jusqu'à 27 millions de touristes. Il a dit que cet objectif pourrait être atteint qu'avec la petite touche, mais il a besoin d'une décision immédiate à faire. Selon le président, il y a 3 choses importantes qui doivent être faites pour développer des destinations touristiques comme Raja Ampat et Labuan Bajo. Il a dit qu'il devrait y avoir un quota de la visite des touristes pour les attractions naturelles telles que l'île de Komodo et Raja Ampat afin que les activités touristiques ne détruisent pas l'environnement. La vieille ville de Semarang est préparée à une destination touristique excellente. Le maire intérimaire de Semarang, M. Tafib Suprianto, à Semarang jeudi soir a déclaré que la revitalisation de la vieille ville sera débutée avec amélioration des infrastructures en 2016. Les routes qui seront améliorées sont les routes Merak et Mpo Tantular Semarang. Selon lui, le budget pour améliorer l'infrastructure dans la vieille ville est en Merak avec un budget de 68 milliards, 30 milliards de rupiah de l'aide du gouvernement central. L'amélioration de l'infrastructure routière sera faite en améliorant le piétonnier et la fourniture d'intérieur de la route, ainsi que l'amélioration de gouttières. Le gouvernement de Java Central, Ganjar Pranowo, a affirmé que la vieille ville serait améliorée immédiatement et revivra parce que ce patrimoine culturel était rare dans le monde. Le chef de la police indonésienne, le général de la police Badruddin Haiti, a déclaré à Jakarta vendredi matin que la nouvelle année se déroule sans des cas importants. Il a souhaité qu'en 2016 puisse être faite avec enthousiasme et le nouvel engagement afin que l'Indonésie puisse être plus avancée, indépendante et sûre. La police indonésienne va aussi changer et d'essayer de donner un sentiment de sécurité en 2016. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'aéroport de Noto Hadinogoro en régence de Jember, Java Est, le vendredi, réouvre. Après être fermé depuis le 31 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier 2016 à 7h30 parce que les cendres volcaniques du mont Bromo dérangent l'aéroport. Le chef de l'unité réalisateur technique de l'aéroport de Noto Hadinogoro, M. Edi Purnomo, a déclaré aujourd'hui l'avion Garuda du type de ATR 72600 a atterri et décollé en temps exact et vers l'aéroport en raison des cendres de Bromo n'ont pas perturbé le vol. Nous espérons que les cendres volcaniques de Bromo ne conduisent plus à Jember, si bien que l'activité de vol à l'aéroport est toujours normale. Sur la base de la poste d'observation du volcan Bromo à Probolinggo, le 31 décembre 2015 à midi jusqu'à 18h, le volcan Bromo subit encore le tremblement et les éruptions. Le ministère des Zones Rurales, de Développement des Régions Défavorisées et de la Transmigration a fait la lettre d'intention avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Vietnam pour accélérer le développement des zones rurales et des zones défavorisées. Le ministre Marwan Jafar, dans une déclaration écrite reçue jeudi, a déclaré que cette coopération était positive et stratégique pour les deux pays, notamment pour les deux ministères, à savoir l'établissement d'une coopération entre les deux côtés. La coopération sera axée sur trois domaines, entre autres le développement de l'agriculture dans les zones rurales, le développement des zones rurales et le partage des informations liées au développement rural. La similitude des deux pays, entre autres, il y a beaucoup de villages. Le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement Rural, Châu Duc Pat, selon Marwan, est également fortement apprécié. Les mesures prises par le ministère du Développement Rural à établir une coopération entre les deux parties. Il espère que cette lettre d'attention peut être continuée en établissant une coopération concrète. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis lointains, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, l'épidémie d'Ebola est finie. Si dans le nord du continent africain, il y avait encore un différent qui ne sait pas quand ce différent prendra fin, en friandise comme cadeau de fin d'année vient de la partie occidentale du continent africain. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a officiellement déclaré le 29 décembre 2015, dans une conférence de presse à Genève, la propagation du virus d'Ebola en Guinée a arrêté. Cette annonce a été faite parce que 42 jours se sont écoulés sans nouveau cas depuis le second test négatif sur un patient guéri. Cela a mis fin à une attaque de virus qui n'a pas de remède et commencé à partir de la Guinée en décembre 2013 et se propage presque toute la région de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Libéria et la Sierra Leone. Les deux pays sont déclarés exempts d'Ebola avant la Guinée. Le chef du représentant de l'OMS en Guinée, Dr. Mohamed Bilhoussine, a déclaré que le gouvernement et le peuple de la Guinée faisaient une réalisation importante avec la fin d'Ebola. L'OMS continuera d'aider la Guinée au cours de 90 prochains jours pour surveiller et s'efforcer à renforcer les services de santé de base au cours de 2016. Cela a été renforcé par le directeur général de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Matshidiso Muti, qui a salué les mesures prises par les trois États tels que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone afin de mettre fin à la propagation du virus d'Ebola. Il a affirmé que pendant la période calme, il y a encore les 10 petites attaques d'Ebola au cours de mars à novembre 2015. L'OMS devrait garder un œil pour empêcher de nouvelles attaques en 2016. Pourquoi devrais-je faire attention? Parmi les victimes qui ont survécu à l'attaque et sont exemptes de virus dans leur sang, mais le virus est toujours en vie pendant 9 à 12 mois dans les cellules de sperme des hommes victimes qui ont survécu. Au cours de 2016, un grand programme attend trois pays les plus touchés par le virus d'Ebola, où les trois gouvernements devraient mettre en œuvre un programme de récupération ainsi que des programmes clés de la santé, notamment les enfants et les mères. Ils doivent également rester prêts à détecter, prévenir et faire la réponse en cas d'une attaque soudaine du virus d'Ebola. Basé sur des données de l'OMS, jusqu'au 20 décembre 2015, il y avait plus de 11 000 personnes sont mortes à cause de l'attaque du virus d'Ebola. Plus de 4 800 personnes ont été tuées au Libéria et près de 4 000 personnes ont été tuées en Sierra Leone. Alors que plus de 2 500 personnes ont été tuées en Guinée, lieu initial de l'attaque d'Ebola pendant ce temps, seulement 8 personnes ont été tuées au Nigeria. Auparavant, le gouvernement de Guinée considère la pauvreté comme la principale source de la propagation du virus d'Ebola et les gens ne croient pas pleinement les services de santé fournis par le gouvernement. Le président de la Guinée, Alpha Condé, depuis la réélection à la tête de l'État en octobre, puis il a alloué des fonds de santé doublés. Nous sommes bien sûr contents de la fin des attaques du virus d'Ebola en Afrique de l'Ouest parce que cela signifie de réduire la menace de la propagation de ce virus dans d'autres parties du monde, y compris en Indonésie. Mais comme l'avertissement de l'OMS que tous doivent être vigilants parce que le virus est toujours en vie chez les personnes victimes qui ont survécu au moins pendant les 90 prochains jours. La vigilance devrait être une attention pour autres pays qui connaissent également les attaques de virus d'autres types comme MERS du Moyen-Orient qui n'a pas été officiellement déclaré terminé. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Et la mise au point. Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 1er janvier 1990, Tahi Bonar Simatupang, ou TB Simatupang, est mort. Il est le lieutenant général retraité, un héros national. Il est nommé par le président en tant que chef d'état-major des forces armées de la République d'Indonésie. Après le grand commandant général Sudirman est mort en 1950. Il est devenu le chef d'état-major des forces armées de la République d'Indonésie jusqu'en 1953. TB Simatupang est décédé le 1er janvier 1990 à Jakarta et enterré au cimetière des héros Kalibata. Le 8 novembre 2013, le président Susilo Bambang Yudhoyono à lui donner le titre de héros national. Le 1er janvier 1990, l'ouverture de l'aéroport international Soekarno-Hatta. L'aéroport international Soekarno-Hatta est le principal aéroport de Jakarta, la capitale de l'Indonésie. Il a été nommé d'après Soekarno le premier président de la République d'Indonésie et Hatta le premier vice-président. Ce sont eux qui ont proclamé l'indépendance du pays en 1945. Cet aéroport a été conçu par l'architecte français Paul Andrew, qui a également conçu l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, la France. Le 1er janvier 1995, la création de l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC. L'OMC est une organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays. Le siège de l'OMC est à Genève et le membre de l'OMC en 2008 a atteint 153 pays, créé le 1er janvier 1990 pour remplacer l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. L'OMC est une continuation de l'Organisation internationale du commerce ou OIC. OIC a été approuvé par la Conférence des Nations Unies dans la Conférence sur le commerce et les employés à la Havane en mars 1948, mais a été fermé par le Sénat américain. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir. Voici donc la mise au point ayant pour le titre « La solidité du cabinet de travail est augmentée ». Le bruit à cause d'un différend entre les membres du cabinet au cours de la dernière année devrait se terminer bientôt. Les ministres, sous le commandement du président Joko Widodo et le vice-président Yusuf Kalla, devraient améliorer la solidité pour que la performance du gouvernement en 2016 puisse être plus efficace. La solidité du cabinet est une condition préalable pour le gouvernement afin d'être en mesure de travailler efficacement. Selon le vice-président du parti du mandat national, PAN, Bahra Hasibuan, lorsqu'il a transmis une réflexion de fin d'année au bureau du conseil central DPP PAN à Kebayoran Baru, Jakarta, mardi 29 décembre, PAN a appelé qu'à partir de l'an 2016, la solidité du cabinet doit être augmentée. La solidité du cabinet est importante car PAN avoue pendant 2015, il y avait des disputes parmi les ministres et entre les ministres et les partis en dehors du gouvernement. Le conflit a causé une agitation et l'incertitude au milieu du public. La condition est aggravée par les ministres qui sont préoccupés par l'imagerie. Ils sont occupés à chercher la popularité en créant une sensation. En conséquence, le gouvernement ne fonctionne pas de façon optimale. Tant d'objectifs qui ont été mis en œuvre par chaque ministre ne sont pas atteints. Lorsqu'on lui a demandé quelles mesures qui devraient être prises pour améliorer la solidité du cabinet, il a dit que le président sait plus s'il y a un remaniement. Bahra Hasibuan a suggéré que le président Jokowi élit les membres du cabinet qui étaient en harmonie. Les ministres élus devraient les personnes qui ont une fort désir de développer le pays. Il a confirmé que cette suggestion n'était pas un coup de pouce pour que le président remanie le cabinet, ni exhorter le président à accueillir les cadres de PAN pour être ministre. PAN rejoint avec le parti politique des partisans du gouvernement qui veulent aider le gouvernement dans le développement de la nation. La coalition rouge et blanche ne sont pas inquiètes d'un plan de remaniement du cabinet qui existe à la fin de l'année. L'adjoint du secrétaire général de l'Indonésie du parti Gerindra, André Rosiade, a affirmé que l'inclusion du parti PAN dans le gouvernement ne fait pas la position des partis d'opposition au Parlement d'affaiblir. Le vice-président du conseil de la Shura du Parti de la Justice et de la Prospérité, PKS, Hidayat Nur Wahid, a confirmé qu'il reste la position et respecte des autres partis politiques à rejoindre le gouvernement. Cependant, il a rappelé le président d'élire les professionnels si le remaniement du deuxième volume a lieu, parce que le remaniement est la prérogative du président. Pendant ce temps, un membre du Parlement de la République d'Indonésie du Parti démocratique indonésien de lutte, PDIP, qui est un parti pro-gouvernemental, Masinton Pasaribu, a déclaré que dans un an et deux mois, le gouvernement Jokowi voit comment les fondations du gouvernement robustes. Serviteurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le président indonésien Joko Widodo est optimiste que l'objectif du gouvernement d'apporter 20 millions de touristes étrangers sera atteint dans les 3 jusqu'à 4 ans. C'est ce qu'a déclaré le président à Waisai, la régence de Raja Ampat en Papouasie-Occidentale, le vendredi. Il a ajouté que le pays voisin, dont la destination touristique n'est pas autant de l'Indonésie, pourrait apporter 24 millions jusqu'à 27 millions de touristes. Il a dit que cet objectif pourrait être atteint qu'avec la petite touche, mais il a besoin d'une décision immédiate à faire. Selon le président, il y a 3 choses importantes qui doivent être faites pour développer des destinations touristiques comme Raja Ampat et Labuan Bajo. Il a dit qu'il devrait y avoir un quota de la visite des touristes pour les attractions naturelles telles que l'île de Komodo et Raja Ampat, afin que les activités touristiques ne détruisent pas l'environnement. La vieille ville de Semarang est préparée à une destination touristique excellente. Le maire intérimaire de Semarang, M. Tafib Suprianto, à Semarang jeudi soir, a déclaré que la revitalisation de la vieille ville sera débutée avec amélioration des infrastructures en 2016. Les routes qui seront améliorées sont les routes Merak et Mpo Tantular Semarang. Selon lui, le budget pour améliorer l'infrastructure dans la vieille ville est en Merak avec un budget de 68 milliards 30 milliards de rupiah de l'aide du gouvernement central. L'amélioration de l'infrastructure routière serait faite en améliorant le piétonnier et la fourniture d'intérieur de la route, ainsi que l'amélioration de gouttières. Le gouvernement de Java Central, Ganjar Pranowo, a affirmé que la vieille ville serait améliorée immédiatement et revivra parce que ce patrimoine culturel était rare dans le monde. Le chef de la police indonésienne, le général de la police Badruddin Haiti, a déclaré à Jakarta vendredi matin que la nouvelle année se déroule sans des cas importants. Il a souhaité qu'en 2016 puisse être faite avec enthousiasme et le nouvel engagement afin que l'Indonésie puisse être plus avancée, indépendante et sûre. La police indonésienne va aussi changer et d'essayer de donner un sentiment de sécurité en 2016. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'aéroport de Noto Hadinogoro en régence de Jember, Java Est, le vendredi, réouvre. Après être fermé depuis le 31 décembre 2015 jusqu'au 1er janvier 2016 à 7h30 parce que les cendres volcaniques du Mont Bromo dérangent l'aéroport. Le chef de l'unité réalisateur technique de l'aéroport de Noto Hadinogoro, M. Edi Purnomo, a déclaré aujourd'hui l'avion Garuda du type de ATR-72600 a atterri et décollé en temps exact et vers l'aéroport en raison des cendres de Bromo n'ont pas perturbé le vol. Nous espérons que les cendres volcaniques de Bromo ne conduisent à Jember, si bien que l'activité de vol à l'aéroport est toujours normale. Sur la base de la poste d'observation du volcan Bromo à Probolinggo, le 31 décembre 2015 à midi jusqu'à 18h, le volcan Bromo subit encore le tremblement et les éruptions. Le ministère des zones rurales, de développement des régions défavorisées et de la transmigration a fait la lettre d'intention avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Vietnam pour accélérer le développement des zones rurales et des zones défavorisées. Le ministre Marwan Jafar, dans une déclaration écrite reçue jeudi, a déclaré que cette coopération était positive et stratégique pour les deux pays, notamment pour les deux ministères, à savoir l'établissement d'une coopération entre les deux côtés. La coopération sera axée sur 3 domaines, entre autres le développement de l'agriculture dans les zones rurales, le développement des zones rurales et le partage des informations liées au développement rural. La similitude des deux pays, entre autres, il y a beaucoup de villages. Le ministre vietnamien de l'agriculture et du développement rural, Chau Duc Pat, selon Marwan, est également fortement apprécié les mesures prises par le ministère du Développement rural à établir une coopération entre les deux parties. Il espère que cette lettre d'attention peut être continuée en établissant une coopération concrète. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, après avoir écouté la mise au point, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, bienvenue dans le programme Le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Cette fois, nous vous invitons à voyager à Yogyakarta. Le ministère de la Culture et du Tourisme de la Régence de Sleman, Yogyakarta, aux vacances de fin d'année 2015, propose le tourisme culturel dans des destinations et des villages touristiques. Le 31 décembre 2015, la zone touristique de Kaliurang sera célébrée par des feux d'artifice. Et le carnaval culturel provient d'environ 10 communautés culturelles sur les pentes du Merapi. Il y a également le festival de Penjor, Penjor et les jeunes feuilles de noix de coco, et aussi le festival de Lanterne, qui sont tenus dans les rues de Kaliurang du 20 décembre 2015 jusqu'au Nouvel An 2016 et participé par les gens de Kaliurang. La zone touristique de Kaliurang est destination principale de la célébration de la nouvelle année à Sleman, Yogyakarta. Kaliurang était connue comme la zone touristique depuis la période coloniale néerlandaise. Au 19e siècle, les géologues néerlandais à Yogyakarta ont besoin d'un lieu de repos pour leur famille. Quand ils sont arrivés à Kaliurang, ils ont été fascinés par la beauté et la fraîcheur. Ils ont construit les bungalows à Kaliurang et après les Hollandais ont quitté l'Indonésie, Kaliurang est encore utilisé comme un lieu de repos. Beaucoup d'entreprises et institutions privées construisent les domiciles familiaux et ils sont loués à la communauté. Et maintenant, Kaliurang est équipé de diverses installations touristiques. Kaliurang est situé à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Kaliurang peut être vu clairement du sommet de la montagne Merapi. Le parc de loisirs Kaliurang pourrait être un lieu préféré pour les enfants. Ce parc est situé à 28 km du centre-ville de Yogyakarta. Il s'étend sur 10 000 mètres carrés. Si vous visitez le parc de loisirs Kaliurang, n'oubliez pas de visiter le parc de loisirs Pelawangan. Environ 300 mètres au nord-est du parc de loisirs, il y a le parc touristique Pelawangan Turgo. Ici, il y a la piscine Telogo Putri. Les eaux proviennent des sources sur les pentes de la colline Pelawangan. Outre la beauté naturelle, Kaliurang possède également une richesse de l'histoire, comme par exemple le musée Ulen Sentalu, qui est situé dans le sous-sol. Dans ce musée, on peut voir la culture et des valeurs de l'histoire javanaise, surtout ce lieu au palais javanaise. Le prix d'entrée à Kaliurang atteint 2000 rupiah pour les adultes et pour les enfants seulement 1000 rupiah. En vacances, 3000 rupiah pour les adultes et 1500 pour les enfants. Et pour les véhicules, il faut payer 500 rupiah pour la moto et 2 000 pour les voitures et 3 000 pour l'autobus ou bien les camions. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La zone touristique de Kaliurang. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de quatre coins du monde. Rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleur. Chers auditeurs, la tribu de Minang est l'un des principaux groupes ethniques indonésiens qui devient la racine de la culture malaise. Sa culture propage à des parties de Riau, Bengkulu et Jambi, en plus de zones de l'ouest de Sumatra. L'Indonésie en couleur de ce soir a pour thème la présence des arts de la tribu de Minang au milieu de la modernisation. Serviteur, un art est une manifestation de la culture. Ainsi, chaque culture a l'art traditionnel qui est attaché à la vie socio-culturelle de la communauté et rend aussi comme une tradition de la communauté. Par conséquent, les arts traditionnels, y compris l'art de la tribu de Minang dans l'ouest de Sumatra, peuvent être interprétés comme un système de valeurs dont la fonction est d'encourager et de guider la communauté pour répondre aux défis auxquels ils sont confrontés tout le temps. Les arts traditionnels doivent toujours être maintenus pour ne pas disparaître. Afin de préserver les arts de Minang, cela est effectué idéalement par la communauté de Minang elle-même. Préserver l'art traditionnel est une forme de reconnaissance et de respect de la communauté envers la tradition des ancêtres, surtout pour les personnes de Minang qui respectent les coutumes. Selon le chef du parc culturel de l'ouest de Sumatra, Muasri, à Padang, au milieu de la menace de modernisation, l'ouest de Sumatra a encore 6 types d'art qui existent encore, à savoir l'art, la musique, le théâtre, la danse, l'artisanat et l'art qui a la perspicacité de technologie. Muasri a ajouté, le parc culturel de Sumatra-Ouest continue d'encourager les arts de survivre et de vivre en faisant souvent des spectacles et des performances ainsi que des expositions. Bien que ces spectacles ne soient pas tenus tous les mois, mais les groupes d'art sont donnés la liberté de pratiquer tous les jours dans le bâtiment de parc culturel. L'art a besoin de place, à savoir l'exposition et le spectacle. Si le spectacle d'art est souvent tenu, cet art n'existe plus. Serviteur, la préservation de l'art traditionnel nécessite la prise de conscience sur les changements qui ont lieu actuellement. Dans ce cas, il a un impact fondamental de l'humanisme. Néanmoins, afin de préserver les arts traditionnels des tribus en Indonésie, dans ce cas l'art Minang, cela n'est pas seulement la responsabilité du seul gouvernement, mais aussi toute la nation de l'Indonésie. Serviteurs, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons maintenant la rubrique de distraction. Et aujourd'hui, vous allez écouter des chansons de dangdut chantées par Megizet.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici un programme musical. Et cette fois, nous allons présenter des chansons de dangdut chantées par Megizet. Le dangdut est un genre de musique indonésienne et actuellement il y a de plus en plus de chanteurs de dangdut avec différents styles et de sons. Cette musique est également existe dans quelques pays, comme par exemple aux États-Unis et le Japon. Dans les années 1980 jusqu'à 1990, les chanteurs de dangdut qui ont été connus sont entre autres Elvis Sukesi, Mansur S, Hussein Babafi, Munif Bahaswan et Meggy Z.
Thank you.
Merci d'écouter La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson de Dangdut chantée par Meggy Zet. Son vrai nom est Meggy Zakaria. Il est né à Jakarta le 24 août 1945 et mort à Depok, Java West, le 21 octobre 2009 à l'âge de 64 ans. Il est un chanteur et aussi un acteur. Il a commencé sa carrière en tant que chanteur de Dangdut en 1968 et depuis 1981, il a commencé à créer des chansons et grâce à une chanson intitulée « Miomal Odant », il est de plus en plus célébré. Il était aussi un acteur de films, y compris dans le cinéma électronique. Dans le programme de Anugerah Dangdut TPI 1997, il a reçu un prix comme le meilleur chanteur d'enregistrement de Dangdut et sa chanson « Benang Biru » était devenue la meilleure chanson Dangdut version Anugerah Dangdut TPI 1998. Meggy Zet était devenu un chanteur favori grâce à sa chanson « Permisi » en 2002. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Meggy Zet intitulées « Berakhir Pula ».
Yang datang menyiksa hati.
Merci d'écouter la voix d'Ironisie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons de Dangdut de la voix d'Ironisie chantées par Mais Gizette. Mais Gizette a décédé, mais ses chansons sont chantées encore et toujours entendues et appréciées par les amateurs de musique de Dangdut en Ironisie. Comme par exemple la chanson de Jatuh Bangun qui a été chantée par la chanteuse Christina et aussi groupe musique de Ticket. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, écoutons maintenant la dernière chanson intitulée « Tiada Berdaya » chantée par Mais Gizette. Merci à tous et à bientôt.
saya, ku kirim doa. Semoga kau bahagia sepanjang masa.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Oh, aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain.
C'était quelques chansons de dangdut de la voix d'Ironésie diffusées depuis Jakarta, chantées par Megizet. Ainsi se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.